Bonsoir, c'est l'été sur France Culture, mais le temps du débat ne s'arrête pas et ensemble, ouvrons ce soir une nouvelle semaine d'échanges d'idées autour d'une question qui nous concerne tous. Pourrons-nous supporter un nouveau confinement ? Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Si cette citation vous dit quelque chose, trois solutions. Soit vous avez passé votre bac de philosophie en 2010 et donc vous avez planché dessus, soit vous êtes un aficionado des pensées de Blaise Pascal, soit vous avez tout simplement lu la presse en temps de confinement. Car cet aphorisme daté de 1669 a trouvé un nouvel écho cette année, en 2020, 351 ans plus tard donc, en mettant des mots sur ce sentiment d'ennui, de vacuité inédit que nombre d'entre nous ont ressenti pendant nos 2 mois confinés. Entre le 17 mars et le 11 mai dernier, le confinement en France fut à la fois une réalité collective et une expérience individuelle, intime. Il n'y a pas eu un confinement, mais une mosaïque de confinements, certains marqués par la solitude et l'isolement, d'autres par une inévitable promiscuité. Pour une partie des Français, ce fut une pause forcée, pour d'autres, un marathon infini de travail, par exemple pour le personnel soignant, mais pour tous, le confinement fut une rupture soudaine, inattendue, dans nos trains de vie habituels, un événement qui a impacté la santé mentale des Français et qui fait craindre l'arrivée prochaine d'une vague psychiatrique dans les établissements spécialisés. Pendant ce temps, le virus continue de circuler, il repart même de plus belle. La seconde vague de l'épidémie est attendue pour l'automne et le Conseil scientifique a prévenu mardi dernier, les grandes villes doivent se préparer à des futurs reconfinements locaux. Nous en saurons plus bientôt, peut-être à l'issue du Conseil de défense sur la Covid-19 qui doit se tenir cette semaine à l'Élysée. Mais en attendant, interrogeons-nous. Quels ont été les effets du confinement sur la santé mentale des Français ? Sommes-nous tous égaux face aux risques psychosociaux induits par l'enfermement ? Que pouvons-nous tirer de positif d'une situation de confinement ? Comment préparer un éventuel reconfinement ? Comment rendre cette idée acceptable ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nos trois invités tenteront de répondre ce soir. Catherine Tourette-Turgis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychosociologue, vous avez beaucoup travaillé auprès de malades du sida dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, vous enseignez à la Sorbonne à Paris et vous avez fondé l'Université des patients à la Pitié-Salpêtrière qui forme des patients experts afin de valoriser leur savoir et de les impliquer dans les parcours de santé. Face à vous, François de Singly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université de Paris, membre du CERLIS, le Centre de Recherche sur les Liens Sociaux. Vous travaillez sur la famille, le couple, l'éducation et les rapports de genre. Et puis à distance, nous recevons un philosophe, Frédéric Worms, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la philosophie contemporaine à l'École normale supérieure. Vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique qui a mené une réflexion sur le confinement et sur ses conséquences. Et puis vous êtes aussi l'un des producteurs de l'émission Matière à penser le week-end sur France Culture. Pour ouvrir cette émission, je vous propose d'écouter la voix du philosophe Bernard Stiegler, disparu il y a quelques jours et qui avait, dans sa jeunesse, fait l'expérience d'un enfermement très radical. Écoutez.
En prison, on a droit à un silence absolu. D'ailleurs, moi-même, je le cultivais tellement qu'à la fin, je ne sortais plus du tout. Je ne voulais voir absolument personne. C'est pas du tout parce que je voulais me désocialiser, mais c'est parce que je savais que si je restais, par exemple, 2 semaines sans dire un mot, alors ça produisait du langage, une autre forme de langage, un langage qui ne sert pas à communiquer. Et en vivant cela, je faisais, sans le savoir, une sorte d'expérience phénoménologique. La peine même de la prison, ce qu'on vous inflige comme peine, c'est de vous priver du monde. Alors, moi, je me suis dit, ben voilà, quelque chose d'extraordinaire, je vais pouvoir faire de la phénoménologie expérimentale. 24 heures sur 24, je ne pourrais pas, comme Husserl, faire semblant d'être sorti du monde pendant tant de temps par jour, et puis ensuite d'y retourner. Mais je ne peux pas y retourner, de toute façon, il n'est pas pour moi. Et donc, j'ai radicalisé, si je puis dire, la radicalisation que Husserl avait lui-même opérée. Et finalement, je pense que j'ai trouvé des choses. D'abord, j'ai trouvé que quelque chose que je ne pouvais pas réduire, c'était ma mémoire. Et la mémoire de la littérature, puisque finalement, il y avait plein de livres dans ma bibliothèque, dans ma cellule.
Bernard Stiegler, invité dans l'émission Du grain à moudre sur France Culture, c'était en 2012. Le philosophe qui nous a quittés le 5 août dernier a passé 5 ans en prison en 1978, entre 1978 et 1983. Il racontait donc au micro de Julie Gacon comment cette expérience a nourri sa réflexion sur la notion d'enfermement, une notion qui nous intéresse hein, quand on parle de confinement. Frédéric Worms, vous qui êtes philosophe également, Bernard Stiegler n'est pas le seul à s'être penché sur ces questions d'enfermement, d'isolement, sur les effets psychologiques. Est-ce qu'il existait avant la pandémie une littérature qui pouvait nous aider à penser le confinement ou est-ce qu'au contraire on s'est retrouvé devant une situation totalement inédite et impensée ?
D'abord, je voudrais rendre hommage à Bernard Stiegler puisqu'on vient d'entendre sa voix. Particulièrement émouvant puisqu'il vient de disparaître et donc je lui rends un hommage un peu ému et amical en ce moment un peu particulier. Si on connecte ensemble la citation par laquelle vous aviez commencé de Blaise Pascal et ce que disait Bernard Stiegler il y a quelques années, donc sur son propre emprisonnement, on s'aperçoit que le confinement, qu'il faut distinguer quand même de l'emprisonnement, il faut en dire un mot quand même dans un instant, c'est de toute façon une expérience radicale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la minimiser. Je pense qu'on reparlera des raisons pour lesquelles le confinement a été acceptable ou légitime aux yeux des citoyens français et ailleurs dans le monde, des raisons, à mes yeux, de santé publique. Et c'est pas n'importe quelle raison qui justifie une mesure extrême, mais c'est une mesure extrême. Et en effet, quand Pascal dit qu'on ne supporte pas le cachot, hein, et il emploie bien le mot cachot, quand Bernard Stiegler rappelle que dans la peine de prison, il y a d'abord cette peine d'être privé d'espace, de temps et de monde. Hein, je pense qu'il a raison. En effet, on voit que ça nous dit quelque chose de très profond sur l'être humain qui a besoin de déplacements dans l'espace et dans la société, de rencontres, de relations. Et je crois que chez tous les grands philosophes, on trouverait quelque chose, soit explicitement, soit en creux. Mais il n'y en a pas un seul, finalement, qui n'insiste là-dessus. Alors Blaise Pascal, c'est un peu particulier, parce que, comme il veut, en un sens, nous détacher du monde pour nous faire accéder au salut, à l'éternité, à la religion, en fait, il souhaite qu'on puisse rester seul dans sa chambre pour méditer sur ces sujets. Il souhaite nous arracher au monde. Mais en creux, par conséquent, il montre à quel point c'est difficile, à quel point nous y tenons par tous nos bouts. Et je pense que c'est une expérience négative que nous donne aussi Blaise Pascal, c'est-à-dire au fond, les êtres humains en tant qu'humains, pour le meilleur et pour le pire, même si une certaine mystique peut conduire certains à s'enfermer volontairement, à faire être ermite, oui, nous tenons par tous nos fils, nous tenons aux autres.
Et lorsque les fils sont rompus, eh bien les conséquences peuvent être importantes. D'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse aux conséquences du confinement sur la santé mentale, alors en cherchant un peu sur Internet, on trouve quelques études qui ont circulé dans les médias juste avant ou au début du confinement, qui ont plutôt été menées à l'étranger. Catherine Tourette-Turgis, vous qui êtes psychosociologue, est-ce que des études ont été menées ici en France depuis le déconfinement pour mesurer les effets que ces 2 mois d'enfermement ont eu sur la santé mentale des Français ?
Oui, il y a eu plein de choses de faire, notamment des associations de psychiatres qui ont pris la parole très très vite pour dire que les personnes les plus fragiles, faudrait peut-être faire de la prévention du trauma, intervenir rapidement plutôt que éviter donc une crise soit dans immédiatement soit après. Mais en fait, je pense que quand on parle de santé mentale, il faut parler de santé en général, au sens où, bon, d'abord, moi j'ai fait un peu comme ça de suivi de vécu de confinement. Il y a plusieurs composantes du confinement. Il y a eu le confinement professionnel, le confinement pédagogique, le confinement familial, le confinement conjugal, le confinement sexuel. Et puis, donc il y a toutes ces composantes-là qui fait que même on peut avoir bien vécu son confinement professionnel et en même temps ça a fait aussi exploser des couples. Donc la composante professionnelle du confinement était à peu près OK, mais pas la composante familiale, etc. Donc, plutôt que de dire santé mentale, c'est plutôt en quoi chacun d'entre nous on a été exposé au risque du confinement, puisque on voyait déjà les études sorties bien avant la prise de position en France, qui était de dire un confinement supérieur à 10 jours entraîne forcément des conséquences psychosociales. Et puis maintenant, les problèmes de santé mentale, on peut dire aussi que c'est des problèmes économiques. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc j'y reviendrai. Mais enfin, il y a plein de choses à dire qui vont peut-être d'ailleurs nous aider à éviter peut-être certaines erreurs du premier confinement sur lequel je reviendrai tout à l'heure.
François de Singly, vous êtes sociologue. Quels ont été, selon vous, les principaux facteurs de stress pour les Français pendant le confinement? Est-ce que c'est plus, finalement, l'isolement, la rupture du lien social, ou pour certains, l'impossibilité, au contraire, de s'isoler?
Oui, exactement, parce que c'est toujours ambigu, là, on a parlé de solitude, etc., avec la prison. Juste quand même un tout petit mot sur Stiegler aussi.
Allez-y.
Parce que, en fait, la fin de sa phrase était quand même très forte en disant, en fin de compte, j'ai poussé d'expérience jusqu'au bout en travaillant sur la mémoire. Et il y a donc un grand sociologue, Maurice Halbwachs, qui avait travaillé sur la mémoire collective que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, fait que, en fin de compte, on n'est jamais totalement isolé, puisqu'en permanence, par la mémoire, les autres nous parlent. Donc je veux dire, c'est déjà aussi une petite contribution. Je trouvais que c'était très beau de le dire dans des moments d'enfermement. Alors sur le, c'est pour ça, vous l'avez dit vous-même, la mosaïque de confinement, très très difficile de faire un énoncé général. La plupart des gens vivent quand même encore, je dis encore parce que pour l'instant c'est là une des formes, quels que soient les noms des familles, mais plutôt en famille ou en couple ou en colocation, etc. et tout. Et donc ici, le confinement paradoxal, c'est, si on veut citer que, par exemple un sociologue qui s'appelle Goffman, qui était l'institution totale, c'est en fin de compte le fait qu'on est toujours, puisqu'on sortait pas beaucoup, même avec des gens qu'on aime, on est quand même toujours sous leur regard. Alors qu'en fin de compte, que ce soit les hommes, les femmes, ou les enfants, les adolescents, on passe notre temps à sortir, à être à l'école, au travail et tout, dans des moments, donc, si on prend la vie de famille, elle est toute petite, hein, en termes de durée, d'une certaine façon. Et là, d'un seul coup, c'était la première chose qui m'est apparue, c'était tout juste, presque tous les articles, pour dire la famille, c'est cauchemar. Oui, puisque si elle est en permanence, on est enfermé là, par principe, ça devient une institution totale. Or, notre sentiment de liberté à chacun d'entre nous, c'est justement le déplacement des regards qu'on a sur nous. On peut difficilement échapper à tous les regards, mais à un moment donné, vous me regardez, à un autre moment, ça va être quelqu'un d'autre, etc. Et donc, en fin de compte, par ce mouvement perpétuel dans les différents espaces et différents temps, on se construit comme un être, entre guillemets, libre. Le fait d'être enfermé à plusieurs, même avec des gens qu'on aime, je dirais, pose un problème. Là, je ne parle pas déjà des gens qui étaient déjà tendus, etc., auparavant, où ça va servir à exploser. Mais je pense que de manière générale, il y a eu les gens qui ont vécu la solitude extrême, d'une certaine façon, mais ceux qui ne l'ont pas vécu, ce n'est pas forcément mieux, même si ça ne fera pas forcément les mêmes types de risques.
Catherine Tourette-Turgis, on a vous voulez réagir peut-être.
Oui, pour aller dans le même sens, parce que justement, enfin, ce que les études montrent, donc il y a les études françaises, et là aujourd'hui j'ai regardé une étude italienne, c'est qu'il y a eu une réduction drastique des rapports sexuels. Donc on dit qu'il y a deux activités qui ont été réduites, l'activité économique et l'activité sexuelle. Donc on voit bien que c'est pas simple, donc c'était pour compléter et qu'il y a bien là quelque chose. Plus 11% des mêmes panels interrogés sur leur vie sexuelle qui ont dit qu'ils désiraient s'éloigner à la fin, etc. Donc c'est une perturbation. Mais excusez-moi, du coup, je n'ai pas écouté votre question.
Non, mais ne vous excusez pas. Non, j'allais vous demander quel est véritablement l'impact que l'on peut mesurer. Qu'est-ce qu'on sait de cet impact de l'enfermement sur la population? On a parlé de cette vague psychiatrique qui était attendue peut-être à l'automne, du fait qu'un certain nombre de personnes ont aussi rompu leur lien avec le corps médical alors qu'elles avaient besoin de ce lien pendant le confinement. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquels la profession est inquiète de cette vague psychiatrique?
Alors, si on regarde les datas, donc les données des sciences humaines et sociales, donc on sait qu'il y a chez 35% de la population, et ça c'est quasi dans toutes les études, on peut dire, bon, globalement, il y a donc des aspects anxiogènes, du stress post-traumatique, enfin il y a quelque chose, et chez 5%, et les psychiatres d'ailleurs en France ont dit 6 à 7%, on a des troubles sévères, donc il faut faire l'accompagnement et la prévention. Du côté de la santé de la population, si on prend le rapport de France Santé Publique, qui est sorti il y a quelques jours, donc sur les dernières semaines, on voit qu'en termes d'anxiété, dépression, ça va un peu mieux depuis le 11 mai, mais il reste toujours une ligne où là, il n'y a pas d'amélioration, c'est, alors sur le territoire français, l'insomnie. C'est-à-dire les problèmes de sommeil n'ont pas bougé depuis le début du confinement. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement suivre pas à pas. Et puis santé mentale, il y a quelque chose aussi, c'est le fait que le confinement mettait en danger certaines parties de la population. La première partie mise en danger, je m'excuse, mais c'était les femmes, hein, c'est-à-dire augmentation des déclarations de plus de 30% des violences domestiques. Et là encore, je suis allée chercher d'autres études parce que je me suis dit, bon, on va pas dire la France, bon, la Chine c'est 30%, la Grande-Bretagne 30%. Donc c'est intéressant parce qu'on prend comme ça trois pays au hasard, eh bien on a 30%. Et 20% maltraitance à enfants. Donc, je pense qu'on a assez de choses là pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans un deuxième confinement. Et là, tout à l'heure, je dirais, mais j'ai deux ou trois idées là-dessus, enfin des idées de ce qu'on appelle venant de la société civile.
Oui, ça fait partie des choses qui n'ont pas été pensées par le politique avant que le confinement soit imposé à la population. La crise de la Covid-19 a, comme toutes les crises, fonctionné comme un révélateur des inégalités qui ont été exacerbées par le confinement. Outre les femmes, d'autres catégories de population étaient plus sujettes aux risques psychosociaux. Écoutez le témoignage de Madeleine sur lemonde.fr.
C'est très très compliqué de rester enfermé dans 17 mètres carrés. Il y a le coin cuisine qui est là, il y a les toilettes qui sont là, donc tout est ensemble. Donc du coup j'ai mis un canapé lit que je dors avec ma fille, et j'ai un matelas que je mets par terre, que mon fils dort par terre. Il n'y a pas de balcon que tu vas sortir au balcon pour changer d'air. Tu dois rester là, il n'y a pas de chambre que tu vas dire tu vas aller dans la chambre pour pouvoir prendre un peu l'air de la chambre. Tu n'as pas d'intimité, tout est là devant toi. Ça, c'est pas juste ça.
Madeleine, qui était donc confinée avec ses enfants dans 17 mètres carrés. Il y a une étude lancée par l'Institut de sondage IFOP, l'étude Coconel, pour analyser le ressenti des comportements des Français face à l'épidémie, qui a établi que plus d'une personne sur trois a présenté des signes de détresse psychologique, mais que si on regarde par catégorie de revenus, notamment les revenus les plus bas, ce chiffre monte à au-delà de 50%. Est-ce que c'est une conséquence directe des conditions de confinement, des conditions difficiles telles que celles que nous venons d'entendre, de François de Singly?
Plutôt révélateur, à mon avis. C'est qu'on a oublié quelque chose, c'est que on pense plus souvent aux riches, mais riche ne veut pas dire le 1%. Hein. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'une des grandes richesses, c'est d'avoir un logement avec, par exemple, une chambre individuelle pour les enfants. Or, en fait, ce mode qui nous permet, de même dans la famille, de nous retirer d'une certaine façon de jouer sur l'espace collectif et privatif, ceux qui ne l'ont pas, en fait, l'expérience, on le voit bien sur les adolescents ou pas, c'était le dehors qui permet de compenser, je dirais, l'espace intérieur. Or, en fait, ici, moi, je dirais à titre personnel, j'ai une chambre, j'ai un bureau et tout, j'ai pas été malheureux de ne pas aller dehors. Mais quelqu'un qui vit dans les 17 mètres carrés et qui va dehors, et quand on lisait dans les journaux qu'il se faisait injurier en termes d'incivilité, peut-être qu'il le faisait simplement pour se sauver lui-même, et donc aussi contribuer d'ailleurs à nous sauver aussi du point de vue social. Donc ici, une des difficultés, à mon avis, intrinsèques du confinement, c'est que derrière les inégalités, les jugements sont comme si on était tous dans des conditions excellentes. Moi, je me rappelle dans un travail des familles monoparentales, des mères et tout, en fin de compte, pour que leurs enfants aient quand même, leur enfant ait chacun un espace, elles dormaient et déplient le soir le canapé de la salle de séjour. Dans le cas du confinement, ça veut dire qu'on n'a même pas le minimum de la chambre. Donc je veux dire, l'équilibre de l'existence, c'est un peu de chacun, mais un peu de ensemble, surtout pas trop de ensemble. Et donc, j'allais dire, les inégalités, c'est l'inégalité du logement, je pense, en tout cas dans les politiques à venir, y compris sur les politiques familiales. Même moi, ça m'a servi, je dois le dire, à revoir le fait que c'est une priorité absolue. Il n'y a pas de vie possible si on n'a pas aussi un espace à soi. Et là, le confinement nous l'a donné en pleine figure. Hein.
On parle de la détresse psychologique liée au confinement, sous le confinement, à cause des conditions de confinement. Mais la fin de ce confinement depuis le 11 mai ne signifie pas la fin des inquiétudes. Il y a la perte de revenus pour beaucoup. Il y a ces tensions qui ont pu apparaître dans le foyer en temps de confinement. Il y a aussi la difficulté de retourner au travail pour certains. Est-ce que 3 mois plus tard, on peut considérer qu'on est vraiment déconfiné mentalement, Frédéric Worms?
Alors, moi, j'ai tendance depuis le début à mettre des traits d'union, à considérer qu'on vit un événement qui s'appelle pandémie-confinement-déconfinement. Et maintenant, d'ailleurs, je pense qu'il n'aurait pas fallu parler de déconfinement, mais de post-confinement. Et les effets psychiques et sociaux le montrent bien. Le déconfinement, c'était un peu une illusion, qu'il y allait avoir un avant et un après un peu magique. On est dans le post-confinement. Maintenant, l'émission le montre. On parle d'une reprise, non seulement de la pandémie, mais donc de cet ensemble. Et je pense que l'illusion, c'était de détacher ces séquences, alors qu'on vit et on va vivre dans une sorte de mixte qu'il va falloir maîtriser médicalement, psychiquement et socialement et politiquement. C'est en effet plus complexe que simplement des séquences qui se suivent. Et je crois d'ailleurs que ça s'entend dans les tonalités un peu négatives du moment, c'est-à-dire que on est presque plus anxieux qu'au premier confinement, parce que dans le premier confinement, on était dans l'ambivalence. Et c'est frappant pour moi ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a en mars, avril, il y avait aussi une idéalisation du confinement. Hein. On retrouve l'importance des liens, on retrouve tout ce qu'on oubliait quand on était dispersé, quand on était en train de voyager, de consommer du carbone, de consommer dans les magasins, etc. Je pense qu'il faut pas oublier que la leçon fondamentale, c'est l'ambivalence, il me semble, psychiquement. Et que les relations, on a découvert des liens, l'importance aussi dans le deuil. Hein. Il y a eu des coupures aussi très profondes à ce moment-là, mais qui révélaient des attachements. Il y a eu aussi des violences conjugales ou parentales, comme ça vient d'être dit. Donc les relations humaines sont ambivalentes et les inégalités sont aussi des facteurs de santé. Moi, je pense que tout ça, il faudrait enfin prendre l'ensemble des questions comme lié aussi à la santé. La santé, c'est pas juste le virus. Effectivement, les inégalités ont des effets de santé, y compris d'ailleurs sur le virus. Les médecins se sont aperçus que il y avait aussi des facteurs sociaux à cause des conditions de travail, par exemple, ou de logement sur les malades du virus lui-même. Pas seulement sur la santé mentale, mais sur la santé mentale. Évidemment, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a besoin de prendre en compte tous les facteurs. Et je dirais, ça plaide et je pense que on sera tous d'accord là-dessus, mais il faut le redire, ça plaide pour l'importance des sciences sociales aussi dans les réponses aux questions politiques et médicales du moment. On a vraiment besoin de données, on a besoin de ne pas avoir peur de connaître notre société. Ça doit nous pousser vraiment à maîtriser ces enjeux qui en effet ne sont pas derrière nous. Et je crois qu'il faut pas non plus, on va pas revenir à un confinement total, mais on va être dans une sorte de mix qui va être psychiquement, je pense, je suis pas psychiatre ni psychologue, mais une des choses les plus difficiles à maîtriser, ça va être cet entre-deux dans chaque espace, dans l'école, dans la famille. On voit bien, est-ce que je mets le masque, est-ce que je mets pas le masque. Les rapports sociaux vont être, je crois qu'il y a des, moi aussi, je pense qu'il y a des conséquences positives possibles à ça, sur une prise de conscience de beaucoup de choses, y compris la santé publique comme telle, mais on entre dans une zone un peu nouvelle et où il faut pas couper les enjeux médicaux, psychiques et sociaux.
Alors on va revenir sur les conséquences potentiellement positives aussi de son confinement, mais Catherine Tourette-Turgis, je vous souhaite réagir. Est-ce que vous venez d'entendre ?
Ah non, c'était pour bien rappeler, puisqu'on avait un communiqué de presse de l'INSEE le 8 avril 2020 qui disait que plus de 5 millions de personnes vivent dans un logement au nombre de pièces insuffisantes. Donc, je veux dire, on a des éléments extrêmement concrets qui ne font que renforcer ce que nous partageons tous les trois. C'est-à-dire que...
Mais oui, et je voulais de mon côté vous soumettre aussi une remarque que j'avais lue dans un article qui, à mon avis, a dû intéresser notamment François de Saint-Guy. C'était un jeune, un adolescent d'une cité de près de Paris, d'une cité au sens que prend ce mot, hein, d'une banlieue avec des immeubles, justement avec des logements très, très contraints. Et lui, il disait, l'empêchement de sortir, c'était l'empêchement d'accéder à son intimité. Son intimité était dehors. Il disait à la journaliste, mais moi, ma vie, elle est dehors. Ses amis, c'est aussi une question de génération, donc il y a aussi des inégalités selon les âges. Et en fait, on croit que l'intimité est dans l'intérieur, un peu confortable quand il l'est, etc. Et là, le confinement peut apparaître comme un retour à soi, mais en fait, on a une intimité relationnel qui peut se passer dans des cafés, dans la rue, dans des salles de concert, et donc faut pas couper le dedans et le dehors, c'est un peu plus compliqué. Et ce jeune homme, je crois aussi, disait quelque chose de très important socialement, la vie sociale est parfois aussi extérieure.
François de Saint-Guy, sociologue, je vous laisse répondre.
Oui, non, c'était pour à la fois renforcer, je pense que ça n'est pas que générationnel. Une partie des femmes, dès qu'elles rentrent dans leur travail, dès que la porte s'ouvre, paf! Si elles ont des enfants, c'est fini. C'est fini au sens où elles sont mères et elles peuvent être très heureuses, hein, c'est pas la question. Mais avant de retrouver un moment pour respirer, il faut attendre le soir, parce qu'en plus, les enfants mettent du temps à s'endormir. Et alors, c'était un des paradoxes, par exemple, justement, sur la rationalité des comportements. Il y a des gens qui sont heureux, alors c'était pas au moment du confinement, dans les embouteillages. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment où ils écoutent leur musique. Parce que la musique en couple, la musique en famille, c'est pas ma musique. Et donc ici, c'est la même chose. Je pense que les jeunes, pour une part, finissent, comme dit Frédéric, leur intimité est dehors. Mais pour les femmes, notamment... Alors j'insiste sur le fait, parce qu'il y a une enquête qui l'a montré déjà sur le confinement, une enquête de l'INED, les hommes... qui ont fait du télétravail, ils avaient un bureau chez eux, beaucoup plus souvent que les femmes. Et donc, si on se retire dans son même pour travailler, d'une certaine façon, on est dans son espace. Tandis que les femmes, en fait, avaient beaucoup moins souvent un bureau, et donc elles devaient cumuler déjà aussi la surcharge et tout. Donc, je pense que traditionnellement, les enfants et les femmes, qui étaient les êtres mineurs, paradoxalement, n'avaient pas accès à un espace intérieur. Ils l'ont conquis en partie par l'extérieur. Le dehors a été un des grandes découvertes. Ce que j'ai dit sur le logement, c'est pas pour nier, bien évidemment, l'importance du dehors.
Et des autres,
parce que c'est le jeu permanent entre le dedans et le dehors. Donc, il faut avoir le droit au dehors, mais il faut avoir le droit à un dedans.
Descend. Alors, pourrons-nous supporter un reconfinement ? C'est la question que nous nous posons sur France Culture jusqu'à 19h. Le confinement qui fut pour certains artistes, par exemple, coupé du monde comme nous tous, une période de créativité privilégiée. C'est le cas de la très jeune chanteuse jamaïcaine de reggae et de dancehall Kofi qu'on écoute tout de suite.
France Culture, le temps du débat d'été, Camille Diao.
Nah, no vacancy. Last time see you on FaceTime, chatting up the place, boating on my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my person on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bagel and talking. Me nothing now, we are chilling in the apartment. Hope you don't mind me asking. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road.
Pourrons-nous supporter un reconfinement? C'est le thème du temps du débat sur France Culture jusqu'à 19h avec nos trois invités. Catherine Tourette-Turgis, psychosociologue, François de Singly, sociologue spécialiste de la famille, et Frédéric Worms, philosophe. Frédéric Worms qui évoquait à l'instant l'ambivalence de l'expérience du confinement. Elle a pu aussi, cette expérience, apporter quelque chose de positif dans nos vies, François de Singly, pour les familles, notamment certaines familles qui ont pu se retrouver comme jamais auparavant.
Ça s'est bien passé, sauf tout au début, à ma connaissance, parce que au début, il y a eu une erreur du gouvernement. Enfin, il en a fait plusieurs, hein, mais j'insiste sur celle-là, qui était de faire l'école à la maison. Alors, il y a dans des familles, bon, là, je parle pas des inégalités, mais même dans les familles pleines de bonnes intentions, se sont mis à dire, bah, puisque notre fils ou notre fille avait 6 heures de cours, on va faire 6 heures et tout. Cauchemar tout de suite. Hein. Là, je pense qu'on aurait eu 100% de dégâts si les gens avaient continué. C'est strictement, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais strictement impossible de faire fonctionner la famille comme une école. Des jeunes aiment la famille parce que justement, ils ont la possibilité de se replier. Donc, ils ne sont pas toujours membres de la famille à l'école. Donc là, les parents passent de passer prof et 5 minutes après de dire on va passer un bon moment, strictement impossible. Mais ça, on le savait avant, hein, sauf le ministre de l'Éducation nationale. Donc, par expérience, il a fallu desserrer les contraintes de l'école. Parce que ça, à mon avis, c'est une chose par rapport au reconfinement qu'il va falloir repenser, parce que c'est pas possible. Donc, il faut... Ça me dépasse, hein, pour tout dire. C'était tellement l'occasion de dire, mais on va aussi, par exemple, en jouant, il y a des jeux de coopération, on va apprendre des tas de choses que malheureusement, à l'école, on n'apprend jamais. Jamais. Mais refaire des programmes scolaires par des parents plus ou moins compétents, mais même s'ils sont compétents, c'est cauchemar. C'est pas la fonction. Et donc là, ça aurait pu. Alors, ce que j'ai vu, c'est que dès la fin de la première semaine, les gens ont compris et ont mis un peu le ministre et l'école de côté pour continuer à vivre et à ce moment-là, redécouvrir d'autres choses ensemble.
Et le confinement, ça a aussi été un moment un peu suspendu, un temps d'arrêt, en tout cas pour une partie de la population. Il y a un fait assez parlant qui a été révélé par deux études scientifiques qui sont parues fin juillet, l'une danoise, l'autre irlandaise, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de naissances prématurées pendant le confinement. Le nombre de naissances extrêmement prématurées a même chuté de 90% sur la période par rapport aux 5 années précédentes, ça s'est établi par l'étude danoise, et les médecins de ces études relient ça au rythme de vie plus tranquille, en fait, duquel ont pu bénéficier les femmes enceintes. Frédéric Worms, est-ce que c'est un bénéfice, ce ralentissement du temps, est-ce que c'est un bénéfice qui a pu être largement ressenti dans la population ?
Alors, moi, je crois que le bénéfice, s'il y en a un, le bénéfice peut-être le plus vaste, hein, la toile de fond, au fond, qui pourrait être positive, et avec des choses négatives aussi qui peuvent être dedans ensuite, c'est vraiment la prise de conscience de la santé publique au sens fort. Moi-même, j'avoue, je savais pas bien exactement ce que signifiait la santé publique. Et en fait, c'est cette partie de la santé qui dépend du comportement social des uns et des autres. C'est-à-dire la santé dépend des traitements médicaux, mais pas seulement. Et évidemment, elle dépend aussi de nos comportements, et notamment de nos comportements relationnels et sociaux. Et la pandémie le montre évidemment, puisque il y a pas de vaccin, d'une part, encore, de traitement, et donc ça dépend presque exclusivement de nos comportements. Et tout à coup, nous devenons consciemment des acteurs de santé publique. Mais on voit bien que la santé publique, au fond, couvre un ensemble d'autres enjeux. C'est vrai que la prévention la protection des maternités, les comportements, automobiles, le tabac, tout un ensemble de toute notre vie, finalement, relève de la santé publique pour le meilleur et pour le pire, sans même parler du contexte global de santé publique, mais qui est essentiel, qui est évidemment la question de l'environnement, la question climatique. Alors, les gens ont peur de la santé publique. Il y a eu des philosophes pour dire, au nom de la santé publique, on nous prive de nos libertés, qu'est-ce que c'est que ce scandale, etc. Je crois qu'il y a une tension, évidemment, entre la santé publique et nos autres droits. C'est comme en bioéthique, on peut avoir un conflit entre le traitement médical et puis la dignité personnelle, le choix d'accepter ou non le traitement. Mais je crois vraiment qu'il faut prendre conscience de toutes les dimensions de la santé publique. Le confinement ne sera évidemment acceptable que s'il est prouvé médicalement qu'il est nécessaire et qu'on est utile à la société en restant chez soi. Et il y a une pédagogie politique majeure. Mais les autres dimensions de santé publique qui apparaissent, au fond, est-ce qu'on a, on a mieux vécu? On n'a pas eu la pollution du bruit? Il y a l'exemple que vous prenez sur les femmes enceintes et les grossesses, c'est évidemment très, très parlant. Au fond, la santé publique devrait être prise non pas comme une contrainte de plus, mais plutôt comme un horizon de progrès global en tenant compte de tous les aspects de la vie humaine. Et je crois vraiment que c'est l'enjeu majeur qui nous attend. Si on oppose d'un côté du positif et du négatif sans se rendre compte qu'en fait il faut une politique de santé publique locale, nationale et globale, je crois qu'on n'aura pas de boussole. Or, on a une boussole possible. La pandémie nous en donne un qui est avec un pôle sud, un pôle sombre, et puis il y a aussi des pôles plus lumineux. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à équilibrer notre santé publique. En France, elle a été très négligée, la dimension de la santé publique. On la prend comme une contrainte, un peu comme le 80 km/h, la ceinture de sécurité, les photos sur les paquets de tabac, etc. Je crois qu'on voit aujourd'hui que s'occuper de la santé, c'est un facteur de progrès dans tous les domaines, y compris scolaires, sociaux, de logement, de transport, etc.
Catherine Tourette-Turgis, est-ce que vous voyez aussi quelque part une forme ou certains aspects qui ont inauguré un mieux vivre dans le confinement? Je crois que vous voyez surtout des aspects négatifs.
C'est pas de dire qu'on voit des aspects négatifs, c'est juste de dire qu'on voit ce qui se passe et puis qu'il faudra un certain temps, et que d'ailleurs sur la question des bienfaits, il faudra faire des analyses coût-bénéfice. C'est-à-dire que peut-être ce qui a été un bénéfice pour une partie de la population a représenté un surcoût pour les autres. Donc ça va prendre un certain temps. Et pour reprendre la santé publique, moi je viens de la lutte VIH-SIDA, donc on avait un modèle de santé publique, et là il a été complètement oublié. C'est-à-dire qu'aucune association n'a été invitée. La société civile a été laissée complètement de côté. Les malades n'ont pas été entendus, ni même les proches. Je pense que là, en termes de démocratie en santé ou démocratie sanitaire, ça a été un grand bide. Il faut le dire. Et donc, je pense qu'une partie de la population dont je fais partie, la société civile, on est en train de voir comment peut-être on peut s'organiser autrement. Parce que la santé publique, c'est la santé de tout le monde. C'est la santé des citoyens. Les citoyens, ils ont toujours des bonnes idées pour s'occuper de leur santé. Donc, il faut aussi leur demander. C'est-à-dire qu'il serait évidemment impensable de préparer un deuxième programme de je ne sais quoi sans faire monter à bord les personnes qui vont donner des idées, qui vont être des leaders d'opinion, etc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... faut pas confondre la prévention et la coercition. On fait pas de prévention en faisant des interdictions. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Alors, si ça, c'est bien, que c'est un bénéfice de découvrir que finalement, en période de crise, de tragédie, on oublie de demander l'avis et de compter avec ceux dont c'est la vie dont il s'agit. Oui, c'est un bénéfice, mais ça s'appelle le bénéfice de la colère.
Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place justement pour écouter
Excusez-moi, Camille, je peux glisser un petit mot juste pour dire à quel point je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que vraiment, la clé du positif, ça va être la démocratie en santé et dans la participation de tous à ces enjeux-là. C'est sûr que rien ne pourra se faire de positif si on ne part pas de là.
Catherine Tourette-Turgis, quels sont les outils qui seraient souhaitables de mettre en place, à votre avis, pour gérer un nouveau confinement du point de vue de la santé mentale? On a parlé notamment, par exemple, de numéros verts. Je sais qu'il y en a un, Covid Écoute, qui a été mis en place par une fondation, la fondation fondamentale pendant le confinement. C'est le fait d'acteurs privés, ce n'est pas le fait des pouvoirs publics. Est-ce que c'est le genre d'outil qui peut servir?
Alors, la santé publique, les outils, ça vient en dernier. La santé publique, c'est d'abord une conception, une stratégie, c'est-à-dire qui s'occupe de qui. Donc si on décide que les citoyens ont une part à jouer, parce que de toute façon on n'a jamais fait de prévention sans participation des citoyens, la prévention c'est une question de changement de comportement volontaire, donc on voit bien que c'est tout ça qu'il faut faire remonter. Par exemple là, moi je suis les événements au jour le jour, donc port du masque obligatoire dans une rue, dans une autre, etc. Je regardais ce que faisait à tout hasard comme ça San Francisco. D'accord, alors port du masque, oui, mais tout de suite, il faut prévoir que éventuellement, les personnes, par exemple, qui vivent, qui travaillent avec des personnes non entendantes, elles ne seront pas obligées de mettre le masque. Il faut prévoir que dans certaines situations psychiques, le masque crée plus de dangers. Donc, il faudra des exemptions. C'est-à-dire, vous voyez, la santé publique, c'est de dire, on fait une mesure, on regarde à qui elle sert, donc l'intérêt de la collectivité, mais tout de suite, il faut regarder qui elle dessert, avoir les renseignements, donc ça c'est la population qui les donne, et faire tout de suite, par exemple, l'exemption, ce qu'on n'a pas su faire là, c'est-à-dire tout d'un coup, tout le monde était privé de tout le monde. Le tout le monde en santé publique et en santé individuelle, ça ne veut rien dire. On ne fait pas du « je vais faire quelque chose » en parlant, en disant « tout le monde doit faire ».
François de Sangli.
Je pense que c'est même plus grave, moi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est pas que la santé publique. Ce qui m'a frappé, là, c'est le président, quand il a dit on va réfléchir sur les conséquences et tout, il a mis que des économistes. C'est-à-dire, le social n'existe pas, tout en haut de l'État. Le social n'existe pas. C'est-à-dire, en fin de compte,
le psychique non plus.
Bon, on déplace l'école dans la famille. Il n'y a jamais eu de consultation. Je suis dans les instances de consultation autour de la famille. Je n'ai jamais été consulté. Non, mais je veux dire, c'est comme pour les malades. Alors, c'est peut-être moins grave, mais c'est la même chose. Dire, c'est une conception très, très asociale de la société. Alors, on l'a accepté pour une raison. Moi, en tout cas, je pense que c'était importante, et ça ne remarchera pas la deuxième fois aussi, qui était le fait que, dans cette dimension collective dont on accepte le confinement, il y avait quand même, on le fait aussi pour les soignants, pour leur témoigner, ça et tout. Comme on a vu que, bon, tout ça, je pense que ça ne marchera pas la deuxième fois, non pas parce qu'on n'a pas confiance dans les soignants, mais dans l'ambiguïté ensuite du post-traitement par rapport à ça. Et donc, le confinement et le post confinement et le reconfinement ne pourra se faire non seulement par une réflexion sur la santé publique, mais c'est aussi sur qu'est-ce que, dans le confinement, on a perdu du social. Hein, juste, je vais prendre un exemple qui est que, en fait, j'ai peut-être mieux travaillé d'une certaine façon en ne bougeant pas, pas forcément plus malheureux. J'ai pas été à mon laboratoire, je dis je là, d'une certaine façon. Donc j'ai perdu moins de temps. Donc d'une certaine façon, on pourra me montrer que rationnellement c'était bien pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé du point de vue du social? Maintenant, quand je vais au laboratoire, en fait, si je reste 6 heures, je ne travaille pas 6 heures. Je passe du temps à la machine à café, à voir des gens, à parler, à dire bonjour, mais y compris à des gens que je connais qu'à moitié. Tous ces toutes petites choses qui sont le ciment de la vie sociale a été quand même complètement dissous. Alors, il reste des grosses pierres, les institutions, etc., les mots et tout. Mais le social, c'est des milliers de micro-événements que le confinement, à ce niveau-là, a fait disparaître provisoirement. Alors, une fois, ça va, mais à mon avis, deux fois et trois fois, bonjour les dégâts pour le monde social. Donc, il faut réfléchir sur la santé publique, ça a été parfaitement exprimé, mais aussi sur, en fin de compte, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble.
Et c'est un très bon mot de la fin puisqu'il est bientôt 19h. Merci beaucoup François de Sangli. Merci à vous Catherine Tourette-Turgis et puis Frédéric Worms à distance. Merci d'avoir été avec nous pour participer à ce temps du débat et de nous avoir donné quelques clés. Je l'espère en tout cas pour mieux préparer, pour mieux penser un éventuel prochain confinement. Et merci à l'équipe du Temps du Débat d'été pour la préparation de cette émission. Sophie Alavi, Alexandra Delbo, Mathilde Tonfourcade, Nicolas Berling, Audrey Dugas, à la technique Sylvain Latu et à la réalisation ce soir, Émilie Valla. Demain, dans les matins de France Culture, il sera question de la zone des trois frontières, l'épicentre des violences au Sahel. Et puis demain soir, dans le Temps du Débat, nous nous poserons la question suivante. Peut-on militer sur les réseaux sociaux? On se retrouve demain, donc, à 18h15. Très belle soirée sur France Culture.